Éternelle est l'amour de Dieu, et sa fidélité demeure d'âge en âge, avec pour chacune et chacun en réserve des trésors de grâce, de miséricorde et de paix. Et cela, quelle que soit notre foi ou notre absence de foi, quelles que soient nos convictions ou nos doutes, quel que soit notre parcours de vie, quelle que soit notre Église, bien entendu, Dieu vous bénit et vous accompagne. Grand bienvenue à chacune et à chacun en ce dimanche. Merci d'être là, d'avoir bravé peut-être la circulation, les marathons. C'est une bénédiction d'être ainsi rassemblés pour remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne et puis pour s'ouvrir à ce qu'il désire nous apporter aujourd'hui. Bienvenue tout particulièrement à Arthur, un jeune homme qui va être baptisé tout à l'heure. C'est vraiment magnifique d'avoir comme ça ces jeunes qui sont placés sous le signe de la grâce. C'est à la fois fort de conviction et déterminé que ce petit garçon se présente à la vie aujourd'hui, tout en étant particulièrement attentif à son environnement, à ce qui l'entoure. On le voit effectivement en train d'inspecter l'assistance. Bravo à toi Arthur, bienvenue aussi à Jade, sa grande sœur, qui a été baptisée ici il y a 2 ans, je crois. Et puis bienvenue à Nikita et Cédric Hensch, ses parents, qui ont demandé donc le baptême de leurs enfants, aujourd'hui d'Arthur. Bienvenue à Julien Grange et Célia Mach, ou Mar, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, ses parrains et marraines. Bienvenue à vous, toute la famille, grands-parents, arrière-grands-parents. Et donc nous entrons dans la louange avec la lecture d'un psaume pour nous placer tous ensemble dans cette louange.
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde, Arthur. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal, il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours.
Merci Cédric pour ce psaume dédié à votre fils. Et puis je vous propose de rejoindre cette louange avec le chant du psaume 134. C'est donc un ancien psaume biblique aussi. C'est page 148 de notre recueil, Bénissons Dieu, le seul Seigneur, qui doit être connu à la fois par les catholiques et les protestants, je pense. Psaume 134, que nous chantons ensemble.
Thank you.
Alors Arthur n'a pas choisi d'être aimé par Dieu, comme il n'a pas choisi d'avoir ainsi des parents, une grande sœur, des proches qui l'aiment et qui cherchent son épanouissement. Ce baptême, c'est le signe de la liberté de Dieu, effectivement, d'aimer Arthur, de l'aimer sans condition. Arthur, ton baptême dira que Dieu t'aime et t'aimera de toute façon, pour toujours. C'est donc librement que tu pourras, ou non, t'intéresser à Dieu plus tard et choisir, si tu le désires, de devenir disciple du Christ dans l'Église protestante ou dans l'Église catholique. C'est égal. Donc, les parents ont préparé quelque chose. Cédric, vous pouvez continuer avec ce thème que vous avez choisi pour votre garçon.
D'abord, avant tout, merci, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là et de nous permettre de célébrer Arthur dans le monde de Dieu avec vous. Et c'était important pour nous de pouvoir faire ça pendant un culte avec vous tous. Notre souhait avec Nikita et moi, c'était qu'Arthur puisse être baptisé et qu'il voit ce baptême comme quelque chose d'une ouverture, une possibilité vers le monde de la croyance. Je suis personnellement très croyant, mais c'est important pour moi que nos enfants puissent suivre le chemin qu'ils souhaitent, puis on leur en présente un. Et puis j'ai trouvé dans la Bible deux extraits qui vont un petit peu dans ce sens. Le premier, c'est le message de Paul aux Galates qui dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et le deuxième extrait, qui est l'évangile de Jean, qui dit « Vous connaissez la liberté et la liberté vous rendra libre. » Et j'espère qu'avec ce baptême aujourd'hui, Arthur trouvera aussi la voix qui lui correspond.
Nous prions Dieu. Ô notre Dieu à tous, merci pour la personne qu'est Arthur. Merci d'avoir donné à la personne humaine une telle qualité d'être. Selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie sur Arthur. Envoie ton souffle, ô Éternel. Amen. Alors je donne rendez-vous auprès de la table, donc Cédric, Nikita, Arthur, Jade, si elle veut, et puis les parrains marraines. Seigneur, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Arthur. Nous te prions pour lui, pour Jade, pour toute sa famille. Toi, notre Dieu, qui nous donne ton souffle pour aimer et pour créer, renouvelle en nous chaque jour ton esprit, afin que nous puissions prendre soin au mieux de ceux que tu nous confies. Que Arthur puisse ainsi se développer au jour le jour, année après année, dans le meilleur et pour le meilleur. Arthur, le Seigneur te bénit et te garde dans son amour. Il t'accompagnera sur la route qui sera la tienne en te donnant sa paix, sa force et sa joie. Et puis il y a une bougie de baptême qui peut rappeler à Nikita. Donc cette bougie, c'est pour toi que Arthur, que nous allumons cette bougie, qu'elle soit le signe de la lumière de Dieu qui t'est donnée pour éclairer ton existence tout entière, qui t'aidera à voir le monde librement, c'est-à-dire ça donne une capacité à tes propres yeux d'avoir ton propre point de vue et de rayonner de ta lumière à toi. Alors je crois que le parrain et la marraine ont préparé quelques mots pour leur filleul.
Mon cher Arthur, c'est un grand honneur pour moi d'être ta marraine et c'est aussi une grande responsabilité. Comme dans ma vie, il n'y a pas de chemin tout tracé, il n'y en a pas non plus pour le rôle de marraine et je me découvrirai donc avec toi. Tu pourras me confier tes joies et tes chagrins, tes choix et tes doutes, tes passions et tes secrets. On partagera beaucoup de rires, peut-être parfois des pleurs et des petites ou de grandes aventures, j'en suis sûre.
Je me réjouis beaucoup de vivre tout ça avec toi. Chers amis, chers invités, même si vous n'êtes pas les stars du jour, je commence par vous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir choisi comme parrain. C'est un geste très fort qui témoigne de votre confiance ainsi que notre belle amitié passée et à venir. Nikita, je te connais depuis si longtemps. Nous étions à peine plus âgés que jamais. Ton jardin en diagonale du mien, à Vézna, toute l'école ensemble depuis la deuxième primaire jusqu'à la fin du collège, je me souviendrai toujours de tes rires contagieux qui n'ont pas bougé en moi simplement et qui résonnent, j'en suis sûr, dans les couloirs de notre plaque. Cédric, ce n'est pas beaucoup plus récent. Nous nous sommes rencontrés adolescents pendant la période du cycle, puis ensemble au collège, puis en plus une université à voisin dans les arts. Nos chemins se sont même croisés à Londres, sans oublier notre lien familial. Certes lointain puisque nous avons même arrière-grand-père, mais tout de même bien présent, tant dans notre partage de valeurs que dans notre vision de la vie, que vaut la peine d'être vécu. Cher Cédric, cher Nikita, Margot se joint à moi pour vous témoigner la gratitude que nous avons de pouvoir continuer à compter sur votre amitié et de voir maintenant nos enfants grandir ensemble. Cher Arthur, cher filleul, j'aime à croire que les enfants choisissent leurs parents avant de venir faire leur séjour sur la terre. À mon avis, tu ne fais pas la tête sur ce coup-là. Tu les connais déjà un peu, tu verras, ils sont sympas. Ton père est assez en manière sociale, bien ami, qui le pousse parfois à se lever d'un coup vers la fin d'une invitation lorsqu'il fatigue un peu ancestralement. Bon, Niki, on y va. Ta mère, elle s'éparpille parfois légèrement, elle reprend la porte du garage, en même temps qu'elle achète des poules, qu'elle passe son FMH, qu'elle fait une garderie à l'hôpital de la Tour et qu'elle s'occupe des adultes de l'ensemble de son entourage. Mais en tout et pour tout, je pense à Arthur que tu as fait le bon choix. Tu as su t'entourer de parents aimants et inspirants qui sont, j'en suis certain, te donner la place et l'attention que tu mérites. Les rôles de parrain et marraine sont des rôles pour moi très importants. Religieusement, ils confèrent aux personnes choisies la responsabilité d'accompagner le candidat au baptême dans sa foi. Si tu es d'accord, Arthur, j'en ferai mon interprétation en te promettant les choses suivantes. Je te promets d'être présent dans tous les grands moments de la vie qui t'attendent. De te guider dans ceux de doutes et de remise en question, et de te célébrer dans ceux de joie et de succès. Je te promets de t'apporter à ma modeste échelle l'ouverture d'esprit nécessaire. Pour comprendre ton prochain, et de t'épauler dans la découverte de ta propre spiritualité. Tu verras, la vie c'est compliqué, et qui serais-je pour prétendre pouvoir te l'expliquer? Mais quand ça complexifie, te déstabilisera ou te décontenancera, je te promets en tous les cas d'être là pour t'écouter. Je me réjouis de passer ces moments avec toi, c'est sûr, on va bien rigoler. Tu as déjà l'air d'être un chouette petit gars et semblerait-il qu'une passion commune pour la musique semble déjà se dessiner. Mon cadeau pour toi aujourd'hui est donc tout trouvé. J'espère qu'il te plaira autant qu'à moi. Voici mon cher Arthur. Ton premier harmonie. Avec toute mon affection, ton parrain.
Merci. Et donc, nous prenons pour célébrer Dieu, nous prenons le cantique de Marcus. Tout seul, c'est grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. pouvez prendre place. Alors, dans notre culture, la figure du roi Arthur est importante et elle est en rapport avec la foi. En effet, Arthur, c'est une figure du roi idéal, garant de la paix et de la justice. C'est un roi messianique, un peu à la suite du Christ. Pour mener cette tâche à bien, cette grande tâche, il réunit des fidèles chevaliers autour d'une table ronde. Une table ronde qui a Dieu pour centre, ou le Christ. Et chacun des chevaliers a sa place sur cette table et sont donc toutes à égale distance du centre qui est Dieu. Et il n'y a pas de médiateur finalement entre Dieu et chacun des chevaliers. C'est l'idée de faire corps ensemble en équipe dans l'humanité pour bâtir la justice et la paix, chacun avec son charisme. Mais c'est aussi, comme souvent, une image de chaque individu. Effectivement, notre Arthur, il va être riche de personnalités, de multiples dimensions dans son être, et c'est donc comme une équipe, à l'intérieur de lui-même, qui doit arriver à bâtir un roi capable d'apporter la justice et la paix autour de lui. Alors, dans l'équipe d'Arthur, il y a des chevaliers qui travaillent pour plus de justice en ce monde. Il y a effectivement du travail à faire, très concret, en ce monde, pour améliorer la paix et la justice. Mais il y a aussi, dans cette équipe de chevaliers, des chevaliers plus spécialisés dans l'idéal de recherche spirituelle. Ce sont ce qu'on appelle, dans la légende du Graal, les chevaliers célestiels. Et en particulier, c'est Galad qui est introduit donc sur le livret qui vous a été remis, qui est introduit dans les chevaliers de la table ronde pour faire partie de l'équipe. Et donc aujourd'hui, cette dimension essentielle de la foi, elle entre dans l'équipe, dans une des dimensions d'Arthur, pour faire de lui un roi complet finalement, avec des dimensions d'action en ce monde et aussi une recherche spirituelle. Alors effectivement, Arthur, il reçoit aujourd'hui le baptême. Dans un sens, ça adoube ce jeune garçon, ce jeune homme qu'est Arthur, comme ayant une part de chevalier célestiel. Nous lui souhaitons qu'il soit donc ensuite librement à la quête du Christ, à la quête du Graal, la quête d'une communion en ligne directe avec Dieu en Christ, avec l'aide de ses parents, de ses parrains marraines, de ses grands-parents, arrière-grands-parents. Comme le dit donc Jean au chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » En fait, c'est « Vous connaîtrez la fidélité de Dieu. » C'est elle qui nous rend libres, libres de tracer notre propre chemin en suivant notre propre regard, sachant que Dieu nous accompagnera toujours de son amour, de ses bons soins. C'est ainsi que Dieu bénit Arthur et toute l'équipe qui le constitue. Et donc je vous propose d'entendre un plus large extrait de cette lettre de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 4 et puis le début du chapitre 5, puisque c'est ce qu'ont choisi Cédric et Nikita avec ce thème de la liberté qui est donnée. Autrefois, nous dit Paul, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui, par nature, n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus par Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclave? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains de m'être donné en vain de la peine pour vous. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi religieuse, n'entendez-vous pas ce que dit la loi religieuse, donc la Torah? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de l'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né selon la chair, et celui de la femme libre est né du fait de la promesse. Il y a là une allégorie, nous dit Paul, car ces femmes sont la figure de deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, engendre pour l'esclavage. C'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem céleste d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, « Sois en fête, femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement, car les enfants de la femme qui est sans maître sont plus nombreux que celles de la femme qui a son maître. Quant à vous, mes frères et mes sœurs, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais tout comme autrefois, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et Paul conclut ainsi, « Frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais ceux de la femme libre. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul, il évoque donc l'histoire d'Agar dans la Genèse. Cette histoire est absolument révoltante quand on la lit au sens matériel, historique du terme. Abraham chasse donc Agar dans le désert avec son fils et sont prêts de mourir de soif. C'est donc très heureux que Paul en fasse une lecture allégorique. Lecture très fréquente à l'époque de Jésus. Saint Paul dit que l'histoire d'Abraham évoque deux façons d'être en ce monde, deux façons de répondre à cette question: qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait agir? Qu'est-ce qui nous fait prier Dieu? Est-ce que nous sommes fils et filles d'Agar, l'esclave? Ou est-ce que nous sommes fils et filles de la femme libre, fils et, ou filles de la promesse de Dieu faite à Abraham? Sans doute sommes-nous tous un peu des deux. L'enfant de l'esclave, qu'est-ce que c'est? Il agit, l'esclave, il agit parce qu'il s'y sent contraint par son maître, comme un esclave obéit afin de ne pas être battu et puis de pouvoir garder la vie. L'enfant de l'esclave, c'est celui qui agit ainsi, qui prie peut-être, pour afin de gagner des bons points auprès des hommes et auprès de Dieu. Ce sont souvent d'autres que lui-même qui ont décidé ce qu'il devrait penser, ce qu'il devrait faire pour être quelqu'un de bien. C'est ça qui est ce qui le motive pour faire cette liste de choses qu'on lui a dit de croire et de faire. Eh bien, c'est la peur. Il agit sous la contrainte. Ce ressort de la peur, pour nous faire faire ce que d'autres ont décidé, eh bien, se trouve dans bien des domaines, effectivement, de notre société, dans bien d'idéologies, dans bien des religions, mais Paul donne l'exemple, effectivement, de certains mouvements religieux de son époque qui prétendent que Dieu serait du genre à tenir un dossier sur chaque personne avec des bons et de mauvais points, et donc pour prier, ou bien pour aller au culte, ou bien pour jeûner, ou faire ceci, faire cela, il faut bien suivre la liste qui a été recommandée en faisant attention à la nouvelle lune, à quelle saison, à quel jour. L'enfant de la femme libre, lui, c'est celui qui peut agir librement, car il a déjà reçu la promesse, nous dit Paul. Il se sait déjà connu par Dieu, et être connu par Dieu dans le langage de la Bible, c'est-à-dire être déjà aimé et gardé par Dieu. Et donc il n'y a plus ni menace ni chantage, le prix a déjà été donné par avance sans condition. Dieu nous gardera toujours sous son aile puisqu'il nous connaît et qu'il nous aime. Et effectivement, Paul a raison, c'est bien comme ça qu'Abraham se met en route. Au chapitre 12 de la Genèse, Abraham et Sarah se sont mis en route car avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit, Dieu dit à Abraham, « Je te bénis et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras bénédiction pour une multitude. » C'est promis, dit Dieu, sans condition. Et donc, qu'est-ce qui motive alors l'enfant de la promesse? Eh bien, c'est l'inspiration que cela donne de se savoir aimer. C'est la beauté du geste ensuite. C'est l'amour que l'on ressent dans le cœur qui nous pousse. Ce n'est plus la contrainte. C'est l'enthousiasme de faire quelque chose de bien comme on peut pour avancer. Et effectivement, ce changement de motivation, ce changement de perspective, change tout. Par exemple, très concrètement, si on aide un clochard en lui payant un sandwich, en se sentant obligé de le faire à contre-cœur, parce que Dieu nous aurait dit d'aimer notre prochain et que sinon Dieu sera très en colère, eh bien à ce moment-là, l'homme qui a donné le sandwich, il le fait en réalité en pensant à lui-même, à son avenir éternel peut-être. Et il se sert de l'occasion de cette rencontre avec un pauvre comme un moyen pour faire son propre salut et préparer son dossier que Dieu tiendrait. Alors, c'est vrai que c'est quand même pas mal parce que le pauvre pourra manger à midi, mais quand même, c'est pas génial. Alors qu'avec la promesse faite à Abraham, eh bien, quand on se sait déjà béni par Dieu, quand on se sent déjà grandi, considéré, aimé, eh bien, cette personne-là va pouvoir agir et agir librement. Cela viendra de son propre cœur, de sa joie de faire un peu de bien, de sa joie d'avoir vu la joie d'une personne. Et c'est infiniment plus créatif, infiniment plus bienfaisant, et puis c'est authentique parce que libre. Le geste vient du bon fond de la personne et est source de joie pour la personne, et ça change tout aussi pour la personne qui reçoit. Alors que l'esclave, il est comme écrasé finalement par la contrainte et il est souffrant. En Christ, explique Paul, nous sommes fils ou filles de la promesse et non plus fils ou filles de l'esclave. Grâce au Christ, nous connaissons un peu mieux Dieu. Et donc, que savons-nous de Dieu, donc, nous dit Paul? Eh bien, nous avons appris que nous sommes déjà connus, aimés, considérés. Et donc, notre légitime soif d'être quelqu'un de reconnu, quelqu'un d'aimé, quelqu'un de validé, quelqu'un digne d'être en sécurité, de faire de belles choses, tout cela est déjà assouvi. Et donc c'est alors librement que nous pouvons nous mettre debout et choisir à notre façon ce que nous pourrons faire. Nous avons là donc une façon de comprendre la religion qui est tout à fait différente. Quand nous prenons le temps de penser à Dieu, ce sera comme quand on va voir un ami. Ce n'est pas une obligation d'aller voir son ami, puisque on sait que l'ami vous restera fidèle de toute façon. On va le voir à cause de notre joie de le voir. Nous allons le voir à cause de notre joie de lui donner de la joie. De même avec Dieu pour ce qui est de ses rendez-vous que sont le culte, que sont la prière, l'étude. C'est simplement par joie d'aller vers Dieu, de ce Dieu qui nous aime. Ces deux types de fonctionnement qui sont présentés ici par Paul, par la contrainte ou par la promesse, ce sont deux types d'alliances avec Dieu qui traversent tous les livres de la Bible. Il y a en Abraham une alliance inconditionnelle. Dieu vient à nous, il choisit de nous bénir avant même que nous n'ayons rien fait. Et Dieu promet de rester fidèle à cette alliance sans condition, même unilatéralement. Il bénit aujourd'hui, il bénira encore et encore. C'est ce que signifie le baptême d'Arthur et notre propre baptême si nous avons été baptisés. Alors ensuite, évidemment, Dieu espère que cela produira de libres fruits, de bons fruits. Ce sera alors des fruits inspirés par la grâce. Et puis il y a un autre type d'alliance dans la Bible, par exemple dans le livre du Deutéronome, nous voyons se développer une alliance conditionnelle, comme si Dieu nous disait « Si tu obéis au commandement que je te donne sur le mont Sinaï, tu seras béni de multiples façons, tu prospéreras, toi et tes enfants. » Mais, ajoute le Deutéronome, et je cite, « Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes tes lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et te seront en partage. Suis une épouvantable liste de malédictions sur toutes les dimensions de notre être, de notre vie, pour les générations et générations. Amen. Je n'ose même pas vous la lire, je vous la laisse, si vous en avez le goût, la découvrir en allant chercher le chapitre 28 du Deutéronome. Mais cela ne ressemble en rien à la façon d'agir de Jésus-Christ. Il n'a jamais agi ainsi, en frappant les coupables, les pécheurs, les gens de mauvaise foi. Bien sûr que non, au contraire. Alors je trouve que ceux qui ont composé la Bible avaient l'esprit très ouvert, acceptant de rendre en compte dans cette bibliothèque qu'est la Bible de ces deux sensibilités théologiques et spirituelles diamétralement opposées. Néanmoins, il faudrait savoir, Dieu fonctionne-t-il dans une alliance de type conditionnel ou dans une alliance du type inconditionnel? Eh bien, Paul nous dit qu'en Christ, c'est clair, ça ne fait aucun doute, Dieu nous aime et nous bénit sans condition. Il nous a connus, il nous a reconnus et il nous a aimés. Nous sommes pour Dieu une personne essentielle et il nous gardera. Donc nous sommes enfantés par cette promesse, c'est donc librement que nous pouvons vivre, que nous pouvons faire du bien ou non, c'est librement que nous pouvons nous tourner vers Dieu ou non, et puis se tourner vers lui de telle ou de telle façon. Alors bien sûr, quand on se tourne vers Dieu, ça l'aide à travailler en nous, mais il n'en fait pas une condition pour nous bénir et pour nous garder. Cependant, il sommeille toujours en nous l'homme qui a peur. Cet enfant de l'esclave qui craint que Dieu cesserait de nous garder si nous n'obéissions pas à tous les dogmes, tous les règles de morale que j'imagine obligatoires. Chassez cet esclave, nous dit Paul. Mieux vaut ne pas avoir de religion qu'une religion basée sur la crainte et sur l'obéissance. J'aurais pas osé aller jusqu'à dire ça, mais Paul l'affirme. Chasse l'esclave qui est en toi, dit Paul, car cela enfante en toi un fils qui persécute ce qu'enfante en nous l'Esprit Saint. En effet, comment aimer véritablement un Dieu que l'on craint, qui nous menacerait, comme dans le Deutéronome, des pires malédictions? Au contraire, notre ami si fidèle qu'est Dieu, nous avons tout simplement de la joie à aller le voir pour tout lui dire ce que nous avons sur le cœur, nos questions, nos doutes, nos hésitations, nos espérances. Comment oserions-nous inventer et entreprendre dans notre vie? Comment oserions-nous avoir des idées personnelles, nous poser des questions, si nous avions sans cesse la peur que Dieu nous vomirait de sa bouche, si nous avions mal cru, mal pensé, mal agi? Au contraire, Dieu nous donne son esprit comme un don. Et, nous dit Paul encore, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et puis comment oserions-nous prier si nous pensons que Dieu nous regarde de travers avec notre toute petite foi pleine de doutes, pleine d'oubli de Dieu? Eh bien, les apôtres de Jésus n'étaient pas meilleurs que nous. Ils sont même plutôt pires que nous quand on lit les évangiles. Et ils ont été choisis, ils ont été appelés par le Christ. Ils ont été jugés dignes, a priori, d'être considérés comme apôtres. La foi, c'est au fond cela, nous dit le théologien Paul Tillich. La foi, c'est accepter d'être accepté, bien que nous nous sentions inacceptables. Je répète, la foi, c'est accepter d'être accepté, bien que l'on se sente inacceptable. Et pour que cela soit possible, eh bien, chasse l'esclave qui est en toi, nous dit Paul. Chasse la peur. Et libère la femme libre qui est en toi pour enfanter le meilleur par l'Esprit. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. C'est une vigilance à maintenir, car dès que nous baissons la garde, la crainte vient. Elle vient comme les mauvaises herbes dans un jardin, elles surgissent dès qu'on a le dos tourné. C'est pour ça qu'il est utile de nous biberonner à l'Évangile, régulièrement. C'est pour ça qu'il est bon de prier Dieu et de le prier dans la gratitude, car cela nourrit notre confiance en lui et ça chasse la peur. Et cela nous met en route par l'Esprit, l'Esprit qui nous libère. Amen.
et nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don précieux de la communauté, cette famille spirituelle que tu nous donnes en Christ. Dans un monde parfois individualiste, tu nous appelles à vivre ensemble, à nous soutenir, à marcher les uns avec les autres, unis dans ton amour. Aujourd'hui, nous te confions spécialement Arthur, qui vient d'être baptisé. Merci pour ce beau signe de ton alliance, pour cette entrée joyeuse dans la grande famille de l'Église. Entoure-le de ta présence, guide ses pas et fais grandir en lui la foi, l'espérance et l'amour. Nous te remettons aussi sa grande sœur, qu'elle soit pour lui un exemple et un soutien. Donne-lui la joie de partager avec lui le chemin de la vie dans la tendresse et la complicité. Seigneur, bénis aussi toutes les familles. Fortifie les liens qui les unissent. Accorde-leur leur patience, bienveillance et paix au cœur de leur maison. Que ta lumière les éclaire dans les jours de joie, comme dans les moments les plus difficiles. Et pour nous tous ici réunis, rappelle-nous que nous sommes membres les uns des autres. Donne-nous de porter ensemble les joies et les peines, de grandir dans l'écoute, la prière et le service. Que ton Esprit Saint nous renouvelle en disant la prière qui nous unit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Alors, grand merci à Marie-France pour sa prière. Grand merci à Diego Innocenzi à l'orgue et Christophe Chalamet au bois. Alors, c'est toujours un peu délicat parce que non seulement c'est un oboïste quasiment de niveau professionnel, mais en plus, c'est un des grands professeurs de théologie de la faculté de Genève. Et donc, c'est un honneur, double honneur pour nous. Et en même temps, eh bien, j'aurai peut-être une note à la sortie pour ma théologie et ma lecture biblique. Je vous recommande ces livres, d'ailleurs, qui sont tout à fait lisibles, qui sont tout à fait inspirants. Vous les trouverez chez Labore Fides, bien entendu. Grand merci à Arthur, à Jade, à ses proches. Et puis, merci pour votre participation à tous. Il a bien tenu quand même jusque-là. Et je vous propose de prendre le chant 4504. C'est page 683 de notre psautier. Cette prière, qui doit être connue aussi des catholiques comme des protestants, vient habiter dans notre âme, fait-nous vivre par la foi. Donc un cantique déjà pour préparer la Pentecôte. 4504, les trois strophes de ce cantique et pendant le cantique. Marie-France et Alexandre, nos conseillers, que je remercie immensément, eh bien, vont recueillir notre offrande. et nous recevons personnellement la bénédiction de la part de Dieu, bénédiction qui nous envoie dans le monde être porteurs de paix, de foi, d'espérance et d'amour. L'Éternel te bénit et t'accompagne, toi. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce sans condition. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors sois béni par tes enfants, ô Dieu, toi qui es source d'innombrables miracles dans nos existences, et cela de génération en génération. Amen.